Le show du matin. Weekend.
Avec Carbo.
Pour moi, c'est pas juste de la tôle.
Radio X.
Chasse, pêche et politique. La chronique de Claude Roy.
Le bruit des vagues sur mon canot. Que je me sauve en courant. Que je me décide enfin à lever le gant. Je veux pas de TV, pas de téléphone. Je veux pas savoir ce que font mes chums. J'ai même pas le goût d'avoir du fun. Je veux rien savoir de personne.
Ça s'en vient certain, faire l'amour dans la chaloupe.
Oui. Oui.
T'es-tu déjà fait pogner, toi, ici?
Oui, plusieurs fois.
Ah, ben non, mon... mon lapin,
Non, ben, c'est... Écoute, quand t'es dans une chaloupe, il y a des huards alentour de toi, il y a des canards, il y a le beau soleil, t'as une femme que t'aimes, puis elle s'est mise en petite culotte courte parce qu'il faisait chaud.
C'est ça.
Puis tout d'un coup, elle dit, ben j'enlève mon gilet parce que j'ai trop chaud.
Tabarnouche, bravo! Ah ouais?
Ben là,
t'es tout seul dans le milieu du lac.
Ouais, tu penses que t'es tout seul au milieu du lac.
Ouais.
Mais là, les moteurs électriques, ça fait pas de bruit, ça, mon homme. Quand t'es occupé, tu regardes pas alentour, là. T'essaies d'être focus.
Mais
hein?
C'est ça. Hein, tu veux pas perdre le contrôle.
Non. Puis il faut que tu tasses les boîtes de verre. Il y a du stock à tasser dans une chaloupe. Là. Ça sera pas le même. Là.
Qu'est-ce que je t'aime, toi? C'est l'enfer. Claude, on s'était dit la dernière fois, parce que là, je vois ça tout étalé en avant de moi, là. On avait parlé, puis les auditeurs l'avaient demandé, les couleurs de l'heure.
Oui, là, parce on commence là, avec ça. Là.
C'est ça, là. Là, j'en vois des belles bleues, je vois du jaune, du orangé, des couleurs or, des couleurs argent. Bon, pourquoi que les leurs, ils ont toutes des couleurs différentes de même, puis un bord, puis de l'autre?
Oui, bien, premièrement, les leurs sont développés. Les leurs que je t'ai apportés, c'est des leurs que j'ai développés.
Oui, c'est les tiens, ça.
C'est mes leurs, une compagnie qu'on a partie avec mon fils il y a quelques années, que j'ai pu, entre parenthèses. Donc, j'ai pu la compagnie. J'ai apporté des échantillons que j'avais eu des compagnies en Chine. Donc, quand tu t'envoies, tu fais affaire avec quelqu'un en Chine, tu lui dis, premièrement, je vais avoir une couleur, je vais avoir une cuillère de telle grandeur, dimension, telle largeur, telle épaisseur, puis je veux pas qu'elle pèse plus que tant de grammes.
Ils sont pas mal tous en forme de poisson. Hein?
À peu près.
Ouais.
Il y a des formes qui sont plus petites, il y a des formes qui sont comme des vrais poissons.
Comme un vrai poisson avec les nageoires puis tout ça, là.
Donc,
elle est vraiment belle, elle.
Puis comme il y a une forme arrondie, ben dans l'eau, il va bouger beaucoup, ce qu'on appelle ça erratique. Donc, ça n'a pas le même mouvement. Tu sais, quand quelque chose a un mouvement perpétuel, une éolienne, ça tourne tout le temps pareil.
Oui.
Alors qu'une cuillère dans l'eau, ça a un mouvement qui est erratique. Ça tourne d'un bord tout d'un coup. Tu relâches un peu de ligne, ça se met à tourner.
Sur le côté.
Avez-vous remarqué que votre micro-ondes fait ça? Tu pars une minute,
ouais.
Il tourne d'un côté, tu
ouais.
Repars, il repart
hein?
De l'autre
bord.
Il tourne de l'autre bord?
Oui, il tourne de l'autre bord.
Tu savais pas ça?
Pour moi, j'ai un modèle de l'or à moi.
Non, ben, en tout cas, donc les cuillères font exactement pareil. Ça, c'est le premier point. Donc, quand on a déterminé avec le fabricant le modèle, la pesanteur, parce que pour moi, c'est vraiment important, je vais avoir un leurre qui n'est pas pesant. Pourquoi? Parce qu'il va avoir beaucoup plus d'action de up and down, c'est-à-dire en haut, en bas,
dans le courant, dans la vague.
À tourner à gauche, à droite. Donc, des leurres, ça me prend des leurres qui ont du volume.
Okay.
Là, les gens disaient tout le temps, mais voyons donc, tu vas pas à truite moucheter avec ça, c'est bien trop gros, nous
ben
autres, on prend des petites cuillères.
C'est là ce que je vois, là, ça mesure 15 centimètres.
4 pouces et demi.
Ouais.
OK, 4 pouces et demi, 5 pouces, même 6 pouces dans ce cas-là.
C'est gros, là.
C'est des gros leurres. Donc, pourquoi j'ai des gros leurres? Parce que j'éloigne tout le temps mon verre de ma cuillère.
C'est ça.
Le plus tu vas avoir un leurre qui va être gros, plus tu vas avoir un leurre qui va être, comme ici, on appelle ça martelé. Bien, martelé, quand tu passes dans l'eau, tu le vois si je me penche à gauche, à droite.
C'est vrai. Hein,
quand le soleil rentre dans l'eau, parce que le soleil rentre dans l'eau, il fait des grandes lignes de soleil dans l'eau. Et quand tu passes un leurre martelé, quand il frappe, ça donne un éclat épouvantable. Donc, le poisson le voit de loin. Et c'est pour ça qu'on dit, par exemple, un leurre qui va être miroir, c'est-à-dire un leurre qui va être miroir, qui n'aura rien dessus, versus un leurre qui va être martelé.
Okay.
OK. Donc, ça, c'est... En partant, c'est ce que je voulais avoir.
C'est un stroboscope, autrement dit.
Oui. Puis en même temps, ben, je voulais avoir d'autres cuillères avec des traits, donc de côté. Ça se tire des leurres un matin.
Les leurres volent bas.
Il veut y toucher.
Mais moi, la question que j'avais, Claude, en t'écoutant, c'est... Ouais. Ça, là, c'est des connaissances aguerries pour être capable de choisir les bonnes couleurs, la bonne forme.
Absolument.
Mais ça, on apprend ça sur le tas?
Malheureusement, les gens ne l'apprennent pas.
C'est ça.
Ça fait 20 ans que je dis la même affaire. Ça fait 20 ans que je me répète à la télévision. Ça fait 20 ans que je les démonte. Puis les gens vont dire, « Ah, moi, ma troll préférée, c'est une Toronto Wobbler. Ouais. » Une Toronto Wobbler, c'est une cuillère de cuisine. Donc, tu prends une cuillère à soupe, tu coupes le manche, fin trois en haut, fin trois en bas, c'est ça le Toronto Wobbler. C'est
sinon,
rien que ça.
Sinon, tu entends parler de la bobite, la fameuse bobite.
La bobite, c'est un monofilament avec des petites palettes, des petites cuillères, ça tourne. C'est fait en réalité pour les rivières, c'est pas fait pour les lacs.
Okay.
On traîne pas une bobite, c'est un lac. Il y en a qui vont s'en servir, il y en a qui vont prendre du poisson avec ça, mais ça prend du poisson fou un peu, parce que ça n'a pas beaucoup d'efficacité.
C'est un poisson qui se présente à mairie, ça, dans ce
temps-là? Oui, il est déjà présenté à mairie, lui. Lui, il serait dans un de mes sacs, c'est que je tirerais, que je ferais la même chose que je tirerais au bout de mes bras. Bon.
La réponse est oui.
Ceci étant dit, après ça, il y a le choix des couleurs.
Oui.
Donc là, on a bien sûr les modèles. Donc, on regarde, premier critère, un leurre qui va avoir une grosseur d'au moins 4 pouces. Deuxième critère, qu'est-ce qu'il y a à l'endos? Quelle couleur on a à l'endos?
Ouais.
Quand on a un leurre qui est, par exemple, à l'endos cuivré,
oui.
Donc cuivre à l'endos,
oui.
Ben, quand il va tourner au soleil... Il va venir ici, j'ai fait un leurre, trois couleurs, or, cuivre et argent.
Ouais.
Puis de l'autre côté, il est cuivre.
Okay.
Donc ça, il y a une compagnie qui s'appelle Camille au Québec qui avait inventé ce leurre-là. Puis moi, je l'ai simplement modifié en lui demandant la permission. Mais c'est un leurre qui va avoir un effet épouvantable dans l'eau. Le fait waver va encore une fois aller chercher beaucoup de soleil. Le fait qu'il y ait trois couleurs, il va représenter les trois couleurs que je vais avoir. Puis si je pose la question, Martin, quelle est la couleur la plus visible dans le fond de l'eau? Dans le fond, là, collée au fond de l'eau.
Ben moi, je rapportais à dire que c'est la couleur fluorescente.
C'en est une, mais la vraie couleur dans le fond de l'eau, c'est noir.
Ben non, toi.
Noir.
Ah,
noir ne
ouais?
change pas de couleur. Noir reste noir et ça va imiter une sangsue. Donc, un noir va attirer l'attention des poissons parce que pour eux autres, la pigmentation qu'ils ont dans leurs yeux va faire qu'ils vont voir la couleur. Une autre couleur qui est très importante, c'est le cuivre.
Okay.
Donc, le bastingage, par exemple, du Titanic, ils sont capables de le voir à cause du cuivre qui va rouiller, qui va prendre une teinte verdâtre comme le toit du château Frontenac, en réalité.
Okay.
Donc, le cuivre est une autre couleur dans l'eau qui est extraordinaire. La troisième couleur majeure, que moi, je dis toujours aux gens, vous devez l'avoir, c'est du bleu. Donc, quand on est capable d'avoir un leurre qui est cuivre à l'endos, martelé, 4 pouces, avec une certaine épaisseur pour avoir un leurre qui n'est pas trop lourd, et la couleur bleue, bien, la couleur bleue va être la couleur qui va se voir le plus dans toutes les strates d'eau. C'est-à-dire que si tu pars de la surface, les gens disent « Ah, moi, je prends une Toronto. » Ouais, une Toronto, c'est argent.
C'est ça.
Puis argent, ça disparaît 5 pieds, là.
T'avouais plus.
5 pieds, t'avouais plus.
OK.
Donc, alors qu'un leurre bleu, tu vas le voir tout le temps.
OK.
Si une journée, par exemple, il fait beau soleil, mais il y a un vent, donc sur l'eau, on a une grande vague, bien, dans le trou de la vague, il va rentrer beaucoup de soleil. Le soleil, il vient frapper l'eau. Quand on dit qu'un lac est miroir,
oui.
C'est que le soleil, il frappe sur le lac, il n'y a pas de vague, et le rayon de soleil remonte au ciel, il ne rentre pas dans l'eau.
Non.
L'eau reste noire. L'eau okay. reste pas transparente du
c'est
tout,
ça.
Du tout. Alors que quand il vente beaucoup, l'eau vient hyper claire, et à ce moment-là, on va se servir de leur chartreuse.
OK.
Chartreuse, c'est jaune fluo. On voit ça sur certains autosports, donc jaune chartreuse. Puis si en plus, j'y ai mis la couleur bleue pour...
Qu'on
voit dans toutes les strates d'eau, bien là, j'ai un leurre qui est winner.
Avec un endo.
Celui-là, j'ai mis un endo argent, mais on a des endos cuivrés, puis on a des endos or.
OK.
Donc, les compagnies qui achetaient les magasins, bien, ils pouvaient avoir un leurre avec... Quand il était bien conseillé... Tu devrais en avoir avec du argent pour les gens qui pêchent à la surface. Les gens qui pêchent en profondeur, donne-leur avec le cuivre, c'est ce qui va aider le plus.
Cuivre noir,
cuivre noir, bleu et chartreuse. Et une couleur, quand l'eau est sombre, quand l'eau, par exemple, c'est ainsi, il y a énormément d'eau parce qu'il pleut beaucoup, les rivières coulent, il y a le dégel, il y a le transport des minéraux, des saletés dans l'eau, l'eau devient brunâtre. À ce moment-là, on va servir de la couleur orange.
Orange et cuivre.
Orange et cuivre, là, t'es un winner, t'as une cuillère qui va passer partout. Donc, ça prend pas 25 millions de cuillères, mais là, à partir de l'autre émission, je vais commencer à donner des cadeaux. On va revenir avec nos cadeaux de cuillères où je vais donner des ensembles où vous allez avoir toutes les couleurs bon. Et une partie des modèles.
On va venir récupérer à mon atelier.
Absolument.
Claude, on nous dit souvent, parce que là, les journées allongent, évidemment,
ouais.
Mais on nous dit de pêcher tôt le matin, presque à la brunante, puis tard le soir.
Faux. Complètement faux.
Ben non.
Toi. Moi, le matin, je dors.
OK.
Puis le matin, quand je me lève, je prépare le déjeuner pour la gang.
Ouais.
Puis je pars pour la pêche vers 9h, 9h30.
Ouais.
Un peu, là.
10h30, 10h30, je suis revenu, ma pêche est faite.
Mais là, tout le monde dans un chalet de pêche à 5h du matin. Dépêche-toi, on se lève pour aller pêcher, là, vite, suite.
C'est de la bullshit, ça.
L'ensoleillement n'est pas là. Donc, le soleil, il se lève, mais l'ensoleillement, il n'est pas encore assez haut pour que le soleil rentre avec un angle parfait dans l'eau. Donc, l'eau n'a pas de couleur.
OK.
Et le poisson comme tel, il faut que vous regardiez l'heure des marées. Donc, si tu vas pêcher dans Charlevoix, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de pourvoirie dans Charlevoix, tu regardes les heures de marée dans Charlevoix.
OK.
Parce qu'ils ne sont pas la même heure qu'à Québec. Pas pareil. Donc, les heures de marée vont te donner les heures où le poisson va être actif. Parce que les heures de marée, c'est la haute pression et la basse pression.
Oui.
Quand la haute pression est là, la marée va monter. Quand la basse pression, la marée va se retirer. Et le poisson mord toujours dans la dernière heure de la marée montante et la première heure de la marée descendante avec une période entre les deux qu'on appelle l'étal. Donc, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de marée qui monte, pas de marée qui descend. Le fleuve est au neutre. Quand tu vas sur le fleuve,
mais
tu remarques ça.
Mais ça, c'est le fleuve. Mais y a-t-il une marée dans le lac Beauport?
Il y a une marée partout.
OK.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement d'eau, mais le changement de comportement du poisson, il est là partout.
Okay.
Donc, première des choses, on regarde la marée dans l'endroit où on s'en va pêcher, dans le créneau où on s'en va pêcher.
Oui.
Même si on pêche à 50 000 d'inter, puis on est à Charlevoix, je prends l'heure des marées de Charlevoix.
Toujours.
Toujours. Et là, à partir de là, je vais aller à la pêche. Quand la dernière heure de marée montante, première heure de marée descendante, à 8 heures le soir, il fait longtemps qu'on est chaud pour qu'on joue aux cartes. Moi, théoriquement,
ben oui.
J'avais à la pourvoirie, puis les gens disaient ouais, tu nous empêches pas d'aller pêcher le soir. Oui, il y a des roches, c'est mes chaloupes, c'est mon lac, c'est mes poissons.
C'est dangereux.
C'est dangereux, puis je veux pas aller te courir à 9 heures le soir parce que le moteur, tu vas avoir frappé une roche, puis le moteur va être brisé.
C'est ça.
Fait que vous rentrez au chalet à 7 heures.
Viens prendre une bière.
Viens prendre une bière, je vais aller vous porter du poisson fumé. On va se faire un beau feu de camp, on va s'amuser toute la soirée, puis tu vas profiter de ton voyage de pêche.
C'est ça, mais débarque du lac.
Mais débarque du lac, puis encore une fois, la pêche, c'est bon. Marée montante, marée descendante, dernière heure de marée montante, première heure de marée descendante et l'étal, ça te donne ta période de pêche,
c'est
matin
hot.
Et soir.
C'est vrai, ça, Claude. Mais là, tu sais, je regarde ça, là, l'heure. Moi, tu sais, les truites de 6, 7 pouces, 8 pouces...
Ça n'a pas d'importance.
C'est bizarre ce que tu me dis.
Ben,
moi, je pensais que le leurre allait faire peur aux plus petits poissons.
Et il fait peur aux plus petits poissons. C'est pour ça, d'ailleurs, que ma technique de pêche, que j'explique depuis longtemps, c'est d'éloigner le monofilament de la cuillère. Quand tu mets un 6 pouces de monofilament derrière une cuillère comme ça, son action dans l'eau est tellement grande que le verre, il fait ça.
Aussi.
La truite, elle le regarde passer et elle dit « Je cours ça après ça. » Non, je n'ai pas de temps à perdre. Plus tu l'éloignes, plus le mouvement au bout se perd. Fait qu'au bout, au lieu de tourner et d'avoir l'action de la cuillère, il fait boum, 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 boum.
C'est ça,
il
bouge comme s'il essayait de nager.
Il bouge comme s'il essayait de nager. Et pour les poissons, pour la truite, ben, elle dit ça, là.
C'est
que ce petit poisson-là, il est en train d'aller vouloir voler mon lunch.
Okay.
Parce que lui, il court après le lunch qui est en avant.
Le lunch qui
donc,
est en avant.
Donc, je vais aller le prendre là.
Ah, ben, tabarnouche.
C'est pour ça qu'on prend un leurre qui est gros. Puis si vous prenez des leurres qui est gros, massifs, avec beaucoup de couleurs, vous allez avoir des résultats de pêche qui vont être différents. Mais surtout, allonger le monofilament derrière la cuillère.
Extraordinaire. On dirait que tu as fait l'amour à des truites. Ils t'ont tout expliqué.
Ah, ben.
C'est pas que j'ai fait l'amour à des truites. Mais c'est vrai qu'une truite, quand tu la prends, premièrement, je la prends jamais dans mes mains. Hein, je la laisse. Quand tu la prends dans mes mains, je fais bien attention. j'aime mieux couper le fil de l'hameçon et laisser l'hameçon dans sa bouche. Au bout de 2-3 jours, l'acidité de sa gueule va avoir fait fondre l'hameçon puis il n'y aura plus de danger, elle va continuer à s'alimenter. J'ai fait des tests en bassin dans des centres d'achat pendant 2 ans au complet où je piquais des truites, c'est-à-dire que je lui donnais de la bouffe attachée avec un petit hameçon. Et il y a des truites qui se promenaient dans l'aquarium avec 6-7 leurres accrochées dans la gueule, puis ils continuaient à s'alimenter, ça dérange rien.
T'as pris le temps avec toutes ces années-là, t'as compris comment ça fonctionne.
Bien, je veux absolument que les gens prennent du poisson.
Oui.
Donc, quand t'es capable de prendre du poisson, tu vas braconner moins. Ouais. Parce que la journée où tu dis « j'ai fini mon hiver, je m'en vais à la pêche », là, t'as tellement faim de prendre du poisson...
Tu veux tes 10 truites.
Avant ça, c'était à 20, puis ça, on finissait plus.
Ouais, c'est l'enfer.
Fait que c'est ça.
Puis encore une fois, ben, on est viandard. On veut les plus grosses, on veut les plus...
Puis on ramasse les géniteurs.
En plus.
Donc,
ça, c'est
les géniteurs, des truites de 2 livres, 3 livres, c'est les plus gros géniteurs.
J'ai quelqu'un qui m'a dit qu'il a sorti un esturgeon du fleuve il n'y a pas longtemps. On a-tu le droit, Claude, ou on n'a pas le droit?
En réalité, on a le droit, mais le code d'éthique des pêcheurs fait que l'esturgeon, on le remet à l'eau.
OK.
Si quelqu'un dit « j'ai pris un petit esturgeon, je vais le manger, puis je le mange », ben si c'est juste pour le rapporter à la maison, puis si c'est des poubelles après, faites-les pas.
Non.
Mais de l'esturgeon dans le fleuve, on va en prendre régulièrement, mais il faut... J'ai même vu quelqu'un, un pêcheur sportif, pêcher un esturgeon avec un rapala. Puis ça, c'est surprenant parce que l'esturgeon a la bouche en dessous du nez. Donc, il faudrait qu'il se tourne ou qu'il aille au-dessus pour le prendre.
Il l'a jigué, je suppose?
Peut-être, je ne sais pas. Il l'a pris au passage. L'esturgeon s'est pris avec un rapala. Et ça, j'ai trouvé ça spécial parce qu'on pêche l'esturgeon avec de la saucisse, du poulet, de la viande avariée qu'on met après un hameçon dans le fond.
La poutine.
Ben, poutine, tu peux pas. Tu peux pas aller.
C'est un mangeur de vidange.
Mais
comment est-ce que tu fais pour manger une esturgeon si ce poisson-là mange des vidanges, Claude?
Non, il peut-être urque, mais il est super bon. L'esturgeon fumé, c'est bon.
Tu manges quoi?
On mange juste. Il y a comme une darne. Il y a comme une darne de saumon. Donc, tu vas enlever, bien sûr, tout ce qui s'appelle arête et tu vas avoir une chair qui va être extraordinaire. Une des meilleures places pour acheter de l'esturgeon fumé, c'est à Montmagny.
Oui.
C'est les Lachances. Donc, tu t'en vas là. Lui, il a une pêche commerciale.
Il a fait fumer lui-même.
Il fume lui-même. Donc, il sait exactement quoi
faire. Ça goûte la boucane.
Ça goûte tellement bon. C'est incroyable.
Ah, bien. Merci, Claude, encore une fois.
Ça fait plaisir.
Extraordinaire, toujours. Et la semaine prochaine, dans 2 semaines, tu auras des cadeaux pour les auditeurs.
On commence les cadeaux.
C'est trop beau. C'est trop beau. C'est trop le fun. On fait une mini pause. Et tout de suite après, qu'est-ce qu'on fait?
Tu vois?
On fait de la musique.
God, don't tell me. Le show du matin. Ready? Weekend.
With a chance.
Radio.
Yes.
X.